Bon, je vous propose d'ouvrir la parole du Seigneur dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. J'ai mis pour titre à ce message « Croire ce que Dieu dit ». Jean, chapitre 4, verset 43. Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait témoigné lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, les Galiléens l'accueillirent parce qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier royal dont le fils était malade. Il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez donc point ?» L'officier royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon petit enfant ne meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs le rencontrèrent et lui dirent que son enfant était en vie. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, « Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à l'heure même où Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maisonnée. Jésus fit encore ce second miracle, après être venu de Judée en Galilée. D'autres versions laissent sous-entendre que c'est le deuxième miracle que Jésus fit en Galilée. Et vous allez voir pourquoi j'insiste sur cet indice-là. Nous voyons là une histoire comme on pourrait en trouver d'autres dans les évangiles où on a finalement la description d'une guérison. Suite à un acte de foi, on pourrait dire quelque part, quand on lit les autres évangiles, que cette histoire est un peu banale aussi, comparée aux autres miracles que Jésus peut faire. Mais pourtant, on voit que quand on recherche un petit peu plus en détail ce qui se passe, on voit là quand même quelque chose de particulier que l'apôtre Jean, quand il écrit cet évangile, veut nous faire comprendre. Le verset 43 nous indique une première chose importante. C'est que le récit de cette guérison fait partie de quelque chose de plus grand, d'un récit plus grand. Et l'apôtre Jean nous montre là tout à fait le lien qu'il y a avec tout ce qui précède, à savoir le chapitre 4 est consacré à l'histoire de la rencontre de Jésus avec une femme samaritaine, avec qui il va pouvoir avoir une certaine discussion et toute cette histoire fait état de la visite de Jésus dans ce village, dans lequel il n'y a eu aucun miracle, et dans lequel tous se sont convertis. Lisons ensemble juste le verset 42 qui dit ceci, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, que les gens disent à la femme, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Autrement dit, les gens de ce village avaient accepté le fait que Jésus était le sauveur du monde sur la seule base de ses paroles. Parce qu'il n'y a eu aucun miracle. Et pourtant, nous avons là tout un village en Samarie qui se convertit. Et ensuite, on a notre histoire qui commence. Verset 44. Il se rend en Galilée, et ensuite, on a verset 43, un petit point virgule. Moi, j'aime bien insister sur les petits points virgules, vous le savez. Parce que le verset 44 est en lien avec ce verset 43 aussi, car il avait témoigné lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Alors, je me pose la question, pourquoi Jésus va en Galilée? Parce qu'il sait déjà à l'avance qu'il sera mal accueilli. Il sait à l'avance que les Galiléens ne croient pas, notamment à Capernaum. Mais il y va quand même. Il y va quand même. Alors on peut se dire pourquoi? Il y a une première raison que je vois, et pour nous qui sommes chrétiens, c'est un enseignement important, c'est que Jésus voulait montrer aux disciples la différence entre le comportement des gens de ce village en Samarie et le comportement des gens en Galilée, à Capernaum. Les disciples vont être certainement impressionnés de voir à quel point c'est différent, à quel point des gens peuvent croire sans voir, et d'autres ont absolument besoin de voir des miracles, et en plus, même en voyant des miracles, ils ne croient pas. Est-ce que vous comprenez toute la différence qu'il y a entre les deux ? Et il a fallu que Jésus fasse comprendre ça à ses disciples aussi, parce qu'un jour, ils seront amenés aussi à prêcher, et eux-mêmes ont dû retenir cette histoire, et que le plus important, qu'est-ce qui est le plus important ? Quel est le plus important ? Est-ce que ce sont les miracles ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Le plus important, ce ne sont pas les miracles. La preuve en est, c'est que Jean accorde à ce... c'est pas Jean qui a découpé les chapitres, mais on voit quand même que ce chapitre 4, si on devait comparer les deux histoires, on voit bien que l'histoire où il n'y a pas de miracle a plus d'importance que celle où il y en a quelque part. Le miracle n'est pas le plus important. Et dans nos vies, Dieu peut même intervenir dans nos vies, Dieu pourrait nous donner des guérisons, Dieu pourrait nous donner des miracles, des signes. Mais si on ne comprend pas pourquoi Dieu permet ces signes ou ces miracles, à quoi cela va nous servir ? Il y a une deuxième raison pour laquelle je crois que Jésus vient à Capernaum, c'est pour une personne. Et cette personne, c'est le centenier romain. Et pourtant, comble de l'ironie, vous lisez avec moi le verset 46, il retourna à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Alors, c'est intéressant de regarder les distances, là. Donc, de Sichar, de ce début de ce chapitre 4, à Capernaum, il y a environ une trentaine de kilomètres, donc 2 jours de marche. Il marche ces 2 jours avec ses disciples, il va à Capernaum. Il y reste peu de temps. On va voir un peu plus loin ce qu'il y a fait. Mais il reste peu de temps au point que ce centenier romain va le rater, de peu. Comme un train qui est passé, qu'on a raté, ou un bus qu'on essaye d'avoir et qu'on a raté parce qu'on n'était pas là au bon moment. Ce centenier romain, il a un problème, il a son fils qui est mourant, et il va rater Jésus de peu. Parce qu'au moment où il va se rendre compte que Jésus, entre guillemets, est dans le coin, il est déjà trop tard. Il est déjà reparti. Mais il sait où il est. Il est à Cana. Et à Cana, vous savez à combien c'est de distance ? C'est 20 kilomètres, à peu près, entre 15 et 20 kilomètres. Donc, c'est intéressant de voir. Parce qu'on a cet officier royal qui ne va pas se démonter. Il va aller voir Jésus. Donc, on a quelque chose de très intéressant, parce qu'on voit que Jésus va à Capernaum, on voit que les Juifs lui font bon accueil, mais Jean nous dit pourquoi il y a bon accueil, parce qu'ils ont souvenir des miracles, donc par quoi était-il attiré ? Par les paillettes, par la poudre aux yeux, mais sur le fond des choses, le fait que Jésus soit venu pour annoncer la bonne nouvelle, la parole même que Jésus annonce comme quoi il est le sauveur du monde, les Juifs... Ça ne les intéressait pas. Ce qu'ils voulaient voir, c'était des miracles. Et dans ces conditions-là, Jésus n'a pas pu rester longtemps à Capernaum à cause de l'incrédulité des Juifs, de ceux qui y habitaient, et il est parti plus loin. Ce qui a alerté le centenier romain, vous noterez bien que c'est pas un miracle d'ailleurs, parce que le miracle qui va avoir lieu pour son fils, c'est le deuxième miracle de Jésus en Galilée. Donc ce n'est pas un miracle qui a alerté le centenier. Ce n'est pas ça qui lui a mis la puce à l'oreille, c'est autre chose. Et les Juifs, eux, sont passés à côté. Les Juifs, eux, ils attendaient de Jésus quelque chose qu'ils n'auront pas. À plusieurs reprises, d'ailleurs dans les évangiles, on voit les Juifs qui demandent à Jésus un miracle, et à chaque fois, Jésus leur refuse le miracle. Parce que c'était pas ça le but. Le miracle en soi, le signe en soi, c'est pas le but que Dieu recherche pour nous. Et pourtant, Jésus allait quand même voir les Juifs. Il y a un texte que l'apôtre Paul écrit, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. » Donc Jésus, lui aussi, de la manière qu'il le fait aussi avec ses disciples, qui plus tard vont d'abord enseigner dans les synagogues et ensuite aller ailleurs, Jésus venait des Juifs et il a prêché d'abord aux Juifs qui l'ont rejeté. Et ensuite, il s'est retourné vers ceux qui voulaient bien accepter sa parole. On voit que d'ailleurs, Jean 4, c'est Samarie. On voit que celui qui va obtenir ce deuxième miracle, c'est pas un juif non plus, c'est un centenier romain. C'est triste quand même. Jésus est venu d'abord pour les juifs et les juifs l'ont rejeté. Il y a aussi un enseignement que nous devons retenir et des questions que j'aimerais nous poser. Pourquoi sommes-nous là ce soir? Est-ce que comme les juifs... Nous sommes venus dans ce temps-là pour vivre une expérience particulière avec Dieu, pour vivre un miracle, pour vivre un signe, pour vivre... Ou est-ce que nous sommes venus pour une raison plus profonde? Quelle est notre attente ce soir? Est-ce que nous venons pour rencontrer Dieu ou est-ce que nous venons simplement pour voir ce que c'est? C'est louable de venir pour voir ce que c'est, mais si ça fait plusieurs fois qu'on vient et puis que nous ne nous décidons pas... Ce que Jésus voulait que les Juifs comprennent, c'est qu'il était le sauveur du monde. Il n'était pas venu pour guérir. Oui, il a guéri. Oui, il a délivré. Oui, il est intervenu. Parce que Jésus, il est bon et dans tout ce qu'il a fait, il a opéré des miracles. Mais ce n'est pas ce qu'il recherchait. Ce que Jésus recherchait, c'est que l'humanité comprenne pourquoi il était venu, pour quelque chose de bien plus important, pour sauver l'humanité de la mort et du péché. Ce soir, j'aimerais vous annoncer cette même vérité. Et même s'il n'y avait pas de signe, même s'il n'y avait pas de miracle, de guérison, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Le plus important, c'est le miracle qui a lieu le jour où on comprend que nous sommes loin de Dieu et que nous avons besoin de le rencontrer. Qu'est-ce qui t'a fait venir ici ce soir ? Qu'est-ce qui vous a fait venir ici ce soir? Quelle est l'attente de votre cœur? Si c'est la soif de connaître Dieu, d'aller plus loin, alors c'est un bon départ. Parce que c'est justement pour cela que des moments tels que celui-ci sont prévus, pour que vous puissiez rencontrer Dieu vraiment. Pas vivre une expérience que vous oublierez dans 2 ou 3 jours, mais rencontrer le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui veut vous délivrer de la mort et du péché. Comparons un peu cette attitude des Juifs qui ont refusé Jésus, qui ont fait que finalement il y restait peu de temps, et le centenier romain. Le centenier romain, il a appris que Jésus était même reparti, et il va faire toute cette marche pour aller à la rencontre de Jésus, et lui soumettre alors sa demande. Il va avec Jésus, et là, verset 48, la réponse est dure. Je ne sais pas si à votre première lecture vous avez pensé ça, mais la réponse de Jésus, elle est dure quand même. On voit quand même que le centenier n'est pas accompagné, donc peut-être est accompagné, parce que Jésus dit « vous ». Ce n'est pas de la politesse, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes, un officier royal qui se déplace, il ne se déplace pas seul. Mais quand même, il fait la route, il fait le chemin, il fait le trajet. Et Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez donc point. Qu'est-ce que Jésus veut dire à cet homme? Cet homme, il vient de marcher une bonne vingtaine de kilomètres pour aller le voir et lui demander la grâce. La grâce. Il vient demander grâce. Il vient demander une faveur à Jésus. Parce qu'il s'inquiète pour son fils qui est mourant. D'ailleurs, on le voit bien, quand Jésus lui dit ça, le verset 49, ce centenier dit « Mon petit enfant ne meurt ». On voit encore quelque chose de supplémentaire, cette compassion qu'il avait pour son enfant. C'est normal, vous me direz, c'est son père. Mais quand même, ce qui déplace ce centenier, c'est pas son cas personnel, c'est le cas de son fils, et il va implorer à Jésus sa grâce. Et que lui donne Jésus ? Est-ce que Jésus lui donne un miracle? La question est ambiguë. Que lui donne Jésus? Une parole. Jésus faisait justement le reproche au centenier, parce qu'il s'adresse à lui aussi. Mais vous ne croyez pas ce que je dis. Vous voulez des miracles, mais vous ne croyez pas ce que je dis. Et pourtant, j'en viens aussi à ce que nous avons entre les mains, la parole de Dieu. Et il y a tellement de choses où on demande à Dieu ce qu'il en pense alors que c'est écrit noir sur blanc dans sa parole. On veut des signes, on veut des miracles, on veut voir des choses alors que Dieu s'exprime clairement dans sa parole. Mais vous voulez des signes, mais vous ne croyez pas ce que je dis. Vous ne croyez pas ce que je dis. À quoi bon je vais faire des signes et des miracles? À quoi bon je vais vous donner des directions, sachant que pertinemment, vous savez très bien que la direction que vous voulez prendre n'est pas la bonne? Parce que dans la parole, c'est clair. Il y a des choses qui sont claires, des fois pour nous, et on s'obstine. Vous ne croyez pas ce que je dis. Finalement, quel moyen de guérison va-t-il donner? C'est presque humoristique, mais Jésus va lui donner une parole. Allez, fais l'expérience. Prends la chose par le bon bout. Crois à mes paroles. Et là, le centenier, il a compris. Il comprend quelque chose. Il comprend qu'il peut s'appuyer sur la parole de Jésus, parce que Jésus lui fait le reproche directement. Et là, il avait besoin de cette parole pour comprendre à quel point les paroles de Jésus sont importantes. Là, il y croit. Il va faire une expérience de foi et va se dire, d'accord, tu me dis de rentrer, je rentre. Il refait ses 20 kilomètres sans savoir si son fils est guéri, quelque part. Comment a-t-il pu vérifier? Il n'a qu'une parole de Jésus qui lui dit, ton fils est guéri. Que fait-il quand il rentre? Il vérifie. Et il ne peut que constater que la parole de Jésus s'est bien accomplie. Et là, on a quelque chose de très important, c'est qu'ensuite, on nous apprend que toute sa famille se convertit. Quand il est mention de croire en Jésus, ça va plus que croire dans le miracle de la santé du fiston qui est revenu à la bonne santé. Ça va beaucoup plus loin que ça. Quand Jean écrit « Il crut en Jésus, lui et toute sa famille », c'est il crut au même titre que les Samaritains ont cru que Jésus était le sauveur du monde. Autrement dit, que s'était-il passé? C'est bien, le centenier a eu un acte de foi, c'est indéniable, mais il aurait peut-être pu saisir la grâce de Dieu avant. Parce que quand Jésus est venu à Capernaum, il n'a pas fait de miracle, parce que là on a que c'est le deuxième miracle. D'ailleurs, c'est au départ, je me suis posé la question, je me suis dit c'est intéressant qu'il est question du deuxième miracle, sachant qu'au verset 45, il était question de tous les miracles que Jésus faisait et qui attiraient justement les gens. Donc c'est le deuxième ou c'est pas le deuxième? C'est le deuxième miracle en Galilée. Et là, c'est toute l'importance, parce que Jean, il veut nous faire comprendre que les Galiléens étaient tellement incrédules qu'ils n'avaient pas la grâce de voir tous les signes que les autres voyaient. Jésus est venu. Quand il était à Capernaum, que s'est-il passé? Il est allé à la synagogue. J'aimerais pour ça qu'on lise un verset dans l'évangile de Luc, qu'on comprenne bien que Jésus avait toujours la même mission. Il avait toujours le même but. Il poursuivait le même but partout où il allait. Évangile de Luc, chapitre 4, verset 43. Et c'est justement ce que le centenier n'a pas compris de suite. C'est Jésus qui parle et qui dit la chose suivante. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Je crois que cette parole est claire. Cette parole nous indique clairement ce que Jésus disait à chaque fois. Alors selon les situations, il s'adapte. Face à une Samaritaine, il lui explique qu'il a besoin de l'eau vive, pas de celle qui vient de la terre, mais de celle qui vient d'en haut, pour ne plus avoir soif. Le message a des formes différentes, comme là, à chaque prédication, il peut y avoir un thème, une base différente, mais nous en venons toujours à la même chose. c'est que Jésus est venu sur la terre pour sauver les hommes et pour qu'ils soient réconciliés avec Dieu. C'est toujours ce message qui est annoncé. Quand Jésus va à Nazareth, on peut juste le lire, c'est pas loin, c'est dans Luc 4 aussi, et au verset 18. Une fois de plus, on retrouve le même message. Jésus, quand il se retrouve d'ailleurs à la synagogue, cite Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, donc pas m'a oint comme étant le Messie, comme étant l'envoyé de Dieu, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Le message de Jésus était toujours le même. Et alors qu'il était à Capernaum, Jésus a très certainement pris la parole pour dire la même chose. Mais personne ne l'a cru. Même pas le centenier. Ce qui a fait bouger le centenier, c'est la maladie de son fils. Et si son fils n'avait pas été malade, il ne se serait pas déplacé non plus. D'où la remarque de Jésus. Dieu pleure sur notre incrédulité. La Bible nous dit que Jésus est venu marcher sur la terre. Voilà le message que ce centenier a entendu. Et voilà ensuite, c'est que le centenier a prêché, entre guillemets, à sa famille, suite à la guérison, parce qu'il a compris. Jésus a permis qu'il comprenne que c'était sa parole qu'il fallait suivre. Et suite à la guérison de son fils, on voit que ce centenier va réfléchir, mais il va se dire, mais au fait, qu'est-ce que Jésus a dit la dernière fois que je n'ai pas saisi? Et c'est ainsi que toute la famille va pouvoir croire. Certes, la guérison peut permettre, mais ce n'est pas le plus important. Que dit la Bible? Qu'est-ce que le centenier a entendu? Le centenier a entendu toujours la même chose. Il est venu pour délivrer. Délivrer de quoi? Du péché. Les captifs, ce sont ceux qui sont esclaves du péché. Sans quoi celui qui n'est pas réconcilié avec Dieu va tout droit en enfer, il faut le dire. Si je ne fais rien, je suis né avec mon péché. Mon péché est là en moi et il m'emmènera avec lui à la mort. Mais grâce à Dieu, ce n'est pas définitif, dans le sens où Jésus-Christ est venu sur la terre marcher et il est mort, lui qui était sans péché. Il est mort sur la croix pour que moi je sois réconcilié. Il a pris la condamnation à ma place. Il a été maudit à ma place. Il a porté mon péché à la croix. Et à la croix, la Bible dit que l'acte qui nous accusait a été effacé. Voilà ce que Jésus est venu faire. Et voilà comment nous pouvons avoir la délivrance. Voilà comment nous pouvons avoir même la guérison. Jésus a souffert et par ses meurtrissures, nous sommes guéris, c'est vrai. Mais voilà le message. Ce soir, si seulement tu pouvais accepter ces paroles, ne pas te baser sur des signes, ne pas te baser sur des guérisons ou quoi que ce soit, simplement croire que la parole de Dieu, c'est la vérité et que Jésus dit la vérité. Quand Jésus il dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé », voilà ce qu'il faut croire simplement. Il faut simplement accepter sans réserve ce qui est écrit et de dire tout simplement « Mais c'est écrit, je le crois. » Comme ces Samaritains. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà ce que cet homme, suite à la guérison, a dû annoncer aussi à sa famille ou a dû rappeler. Comme ses disciples qui ne comprenaient pas les paroles de Jésus. Et suite à la résurrection, quand ils ont eu l'esprit éclairé, quand ils ont été illuminés par l'Esprit de Dieu, ils ont compris. Et là, ils ont commencé à se rappeler les paroles que Jésus disait qu'ils ne comprenaient pas à ce moment-là. C'est exactement ce que le centenier a dû faire. Ce n'est pas écrit, c'est vrai. Mais comment comprendre autre chose? Qu'est-ce qui a pu alerter ce centenier sur la visite de Jésus à Capernaum? Jésus allait dans toutes les synagogues pour prêcher la bonne nouvelle. Et personne ne croyait en lui. Alors on a d'une part des Juifs qui s'opposent systématiquement. Des juifs, je dirais des habitués. Je dirais ceux qui viennent et qui reviennent et qui ne se rendent pas compte qu'à chaque fois qu'ils refusent, à chaque fois qu'ils s'opposent, ils ont un cœur qui s'endurcit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte, dit la parole. À chaque fois que je viens et que je reste là stoïque sans recevoir ce que Dieu veut me donner, je m'endurcis. Et la fois d'après, c'est encore moins facile. Parce que je me suis toujours, à chaque fois, je m'endurcis un peu plus. C'est aujourd'hui qu'il faut recevoir cette parole et l'accepter. Les Juifs s'endurcissaient au point qu'ils savaient que Jésus était le Messie, mais qu'ils le refusaient quand même. Ils s'opposaient. Et à côté, on a des Samaritains qui n'étaient pas le peuple d'abord prévu. Il y a ce centenier qui comprend quand même qu'il y a quelque chose et qui reçoit cette parole de Dieu. Et il se retrouve ainsi réconcilié avec Dieu. J'aimerais que ce soir, vous ne partiez pas de ce lieu sans obtenir la réconciliation. J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. La Bible dit « Jésus pleure sur Jérusalem et il annonce la destruction de Jérusalem. » Et il dit ceci « Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Certes, il n'y a pas eu de miracle, mais ils avaient quand même parmi eux le Fils de Dieu, en personne. Et ils n'ont pas cru à ses paroles. Ils l'ont rejeté. Ce que Jésus a annoncé s'est bien passé. Jérusalem a été détruite. Le temple a été détruit complètement. Au point qu'aujourd'hui, les Juifs aimeraient en rebâtir un nouveau. Parce que la parole que Jésus avait annoncée s'est bien réalisée. Que faisons-nous de la parole de Dieu? Que faisons-nous de la parole de Jésus? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur veut te faire voir sa gloire aussi. Il veut que tu puisses voir des choses, comprendre, expérimenter des choses. Mais ça passe d'abord par un acte de foi. Il faut croire sur parole ce qu'il dit. Il faut croire que si tu te repens de tes péchés, si tu demandes à Dieu sa grâce, si tu demandes à Dieu d'être éclairé sur comment il te voit, alors tu verras, tu comprendras comment Dieu te voit. Et tu pourras lui demander ce pardon avec une repentance sincère. Il faut commencer par là. Il faut s'approcher de lui en lui demandant sa grâce, en croyant ses paroles. Le juste vivra par la foi, dit la parole. Est-ce que quelqu'un ce soir voudrait demander à Dieu sa grâce et voudrait faire la paix avec Dieu? Alors, lève la main. Le Seigneur te voit. Tu peux baisser la main. Est-ce que quelqu'un d'autre se dit oui, Seigneur, pardonne-moi de ne pas avoir cru à tes paroles. Pardonne-moi de toujours vouloir expérimenter ceci ou cela, sachant très bien que dans ta parole, il y a des choses écrites auxquelles je n'ai pas cru. Je n'ai pas pris au sérieux ce que j'ai pu lire dans ta parole. Et je demande des signes, je persiste dans ma mauvaise voie. Qui se rend compte? Le Seigneur te voit. Qui veut demander encore le Seigneur sa grâce? Croyez ce que Dieu dit. Oui, le Seigneur te voit. Le Seigneur t'appelle à croire simplement ce qu'il dit et à t'approcher de lui simplement. Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants devant toi pour ta parole qui veut que nous puissions avancer avec toi et surtout obtenir la réconciliation avec Dieu. Seigneur, le pardon, Seigneur, tu veux nous le donner. Parce que tu as souffert, tu as terriblement souffert pour que le pardon puisse être possible. À la croix, tu as dit que tout est accompli. Aussi, nous voulons croire ce que tu nous dis. Nous voulons croire ce qui est écrit dans cette parole. Tout est accompli. Et nous te disons merci parce qu'à la croix, tout est accompli. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ces personnes qui ont levé la main et qui demandent ta grâce. Seigneur, tu vois comme ce centenier, Seigneur, qui fait cet acte de foi, je te demande ta grâce pour ces personnes, pour que tu puisses montrer à présent que tu es vivant, que dans leur cœur, ils puissent avoir cette paix comme nous l'avons chanté, qu'ils puissent expérimenter la grâce de Dieu, la réconciliation avec Dieu, qu'ils puissent ainsi aussi expérimenter, comme ce centenier l'a expérimenté, la grâce qui vient de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Gloire à toi Seigneur Jésus. Amen.